Le capitaine venait de crier « Ohé, ceux de tribord !» Et maintenant, c'était notre tour, à nous les bâbordais, de descendre et d'aller dormir. J'en avais quant à moi grand besoin. Jamais encore, depuis l'ouverture de la pêche, je ne m'étais senti si las. Nous étions sur le chemin d'un banc qui n'en finissait pas de passer. Le temps de jeter la ligne et de la tirer, whoop ! La morue s'abattait au pied de l'éventreur. Ça pleuvait comme une manne. Mais aussi, à la longue, les bras n'en pouvaient plus. On avait les reins courbaturés à faire sans cesse pendant 6 heures d'affilée ce mouvement toujours le même, d'avant en arrière, d'arrière en avant. Joignez qu'il soufflait une bise du nord-est, aiguë, coupante, qui vous entrait dans la chair comme une lame de rasoir. J'avais les mains labourées de gerçures, les paumes à vif, chaque glissement de la ligne m'ayant arraché quelques lambeaux de peau saignante. Ce me fut un vrai soulagement quand Guillaume, mon frère cadet, qui était de la bordée de tribord, vint me relever. « La place est chaude, » me dit-il en frottant ses yeux encore ensommeillés. Nous occupions, à tour de rôle, la même couchette. Je lui répondis « Eh bien, je ne t'en laisse pas autant. » Comme je m'acheminais avec les autres vers l'écoutille, le capitaine nous héla. « Amenez-vous un peu, les gars, il y a un verre à prendre. Et toi, Jean-René, » ajouta-t-il en se tournant vers moi, « rapport à ta qualité de sacriste, j'ai à te causer. » J'ignore si c'est encore aujourd'hui comme de mon temps, mais à cette époque, à bord de tout Islandais, il y avait un matelot qui remplissait en quelque manière les fonctions de curé. On choisissait d'ordinaire quelqu'un qui eût été assez longtemps à l'école pour avoir appris à lire couramment dans le latin des livres de messe. Les jours de grandes fêtes, c'est lui qui débitait, tant bien que mal, les textes sacrés. Et si, comme il arrivait malheureusement plus souvent qu'il n'eût fallu, un homme de l'équipage venait à décéder, c'était lui encore qui faisait sur l'agonisant les derniers signes de croix et qui, lorsqu'on jetait le cadavre à la mer, prononçait le requiescat in pace. Il portait le titre, non de curé, ce qui eût été une irrévérence, mais de sacristain. Il prenait du reste son office à cœur, s'en acquittait de son mieux, gravement, avec dignité. À bord de la Miséricorde du quartier de Tréguier, armateur Perrault, capitaine Guyadé, le sacristain, c'était moi. « Qu'y a-t-il donc ? » demandai-je au capitaine en m'engageant derrière lui dans l'étroit escalier de la cabine. Il nous fit asseoir autour de la table, tira d'un placard des verres et une bouteille d'eau-de-vie. En tout autre moment, ce boujaron eût été le bienvenu. Mais je n'aspirais qu'à quitter mes vêtements gelés, à m'étendre, à dormir d'un sommeil de brute. J'allais répéter ma question quand le capitaine, ayant rempli les verres, leva le sien et dit « Camarade, c'est l'heure où, chez nous, les cloches s'en reviennent de Rome. Buvons à la santé de Pâques fleurie. » Comment vous faire comprendre cela? Ces simples mots produisirent sur nous l'effet de paroles magiques. Nous sursautâmes du banc où nous gisions affalés. Adieu la fatigue, l'éreintement, adieu le froid, adieu le sommeil. De toutes les bouches jaillit le même cri. « Pâques ! Et c'est demain ! » Hervé Guyadé décrocha l'almanach de carton suspendu à un clou contre la boiserie de chêne et l'étala devant nous à plat sur la table. Nous nous penchâmes au-dessus. Des barres d'encre rayaient les jours écoulés. Cela faisait comme une série d'échelons noirs. Déjà, près de 6 semaines que nous bourlinguions dans la patrie des morues, au large de Faxafjord. Nous ne nous en doutions guère. Là-bas, voyez-vous, on perd le sentiment du temps. C'est une chose très particulière dont on ne peut se rendre compte en nos pays où l'on se lève avec le jour, où l'on se couche avec la nuit, où teintent les angélus du matin, de midi, du soir, où le soleil monte, plane, descend avec la régularité des poids d'une horloge, où le laboureur, à défaut d'autres cadrans, a la ressource de mesurer l'heure à la longueur de son ombre. À Islande, rien de tout cela. On vit comme hors de la vie. On va, on vient, on travaille, on mange, on dort. On échange même à de longs intervalles de rares paroles, mais machinalement, confusément, et comme en rêve. Jour, nuit, ne sont plus que de purs mots, vide de tout sens, une clarté triste, infinie, éternelle, une lumière aussi pâle qu'on la dirait morte. Le soleil lui-même, quand il devient visible, a l'air d'une figure de l'autre monde. Il semble que ce n'est pas lui qu'on voit, mais son spectre, son âme défunte, tellement il n'a ni forme ni couleur. Il fait songer à quelques méduses gigantesques flottant à la dérive entre deux eaux. À l'horizon, rien où se puisse arrêter le regard, ou plutôt, pas d'horizon. La mer et le ciel sont comme fondus l'un dans l'autre. Que de fois le navire ne m'a-t-il pas fait l'effet d'être suspendu dans l'espace? Et le silence. Ah, le silence. Il faut avoir séjourné dans les parages polaires pour savoir ce que c'est. Il est si vaste, si absolu qu'on en a peur. On a l'impression d'être dans le pays muet de la mort et, malgré soi, l'on ne parle qu'à voix basse, comme dans une église. Un cri, un appel vous font tressaillir, comme une chose insolite et quasi sacrilège. De cloche, naturellement, il ne saurait être question. Et c'est peut-être ce à quoi, nous autres Bretons, nous nous faisons le moins. De toutes les privations, celle-ci est la plus pénible. Parfois, on croit ouïr leur son, très loin selon le côté d'où souffle le vent. On prête l'oreille, on se dit de pêcheur à pêcheur. Écoute ! C'est comme un angélus voilé ou comme un glas de songe. Il y en a qui y voient un intersigne et ils deviennent subitement tout pâles. J'ai connu un homme de Plougrescant qui en reçut au cœur un coup si fort qu'il fallut le transporter dans la cabine. C'était pourtant un colosse, avec des membres énormes. Il se mit à bégayer des choses sans suite, comme un enfant, et trépassa sans avoir recouvré ses esprits. Cette campagne était la première qu'il faisait. Ce fut la seule. Sa mort, je me rappelle, nous frappa. Quand je dis qu'il n'y a point de cloche à Islande, j'ai tort. Chaque navire a la sienne, mais celle-là, il ne fait pas bon les entendre. Elles ne sonnent d'ordinaire que par temps de brume, ou les jours de grosse mer, à bord des goélettes en perdition. C'est le tocsin de détresse, l'adieu désespéré de ceux que les sentiers de la lande natale ne reverront plus. En avons-nous récité des De Profundis, en regardant s'évanouir dans les ténèbres, sur des fantômes de navires, des équipages affolés teintant leur propre glas. Oui, le rêve étrange qu'on vit là-bas est souvent traversé d'affreux cauchemars. Il est heureux, somme toute, qu'on soit, durant les mois de pêche, comme des âmes engourdies, et qu'on ait conscience de rien, pas même de la fuite des jours. Qu'il se fût écoulé 6 semaines depuis le soir de février, noyé de pluie, où nous avions pris congé de nos femmes sur les quais de Tréguier, parmi les sacs de sel, les fourniments de toutes sortes et les coffres, nous nous refusions presque à le concevoir. Le capitaine Guyadet appuya son doigt sur le calendrier. « Lis, Querello, » me dit-il. Et je lus, immédiatement, au-dessous de la dernière date biffée. Samedi, 14 avril, Saint-Tiburce. Puis, en lettres plus grosses, dimanche, 15 avril, Pâques. Les autres bâbordais répétèrent en chœur. « Pâques, Pâques fleurie !» Sur les visages accablés tout à l'heure de lassitude, il y avait maintenant une joie qui n'était pas due, comme vous pourriez le penser, à la tiédeur de la chambre après le froid coupant du dehors, ni non plus à l'animation factice de l'alcool. Non, ce qui éclairait ainsi d'un air de fête nos mines harassées, c'était bien, c'était uniquement ce mot de Pâques, prononcé là dans le silence des eaux polaires à plusieurs centaines de milles de la patrie. Il y a dans les mots les plus simples, voyez-vous, une vertu de contentement ou de tristesse. Il n'est que de les dire ou de les entendre, à certaines minutes, en certains lieux, pour se représenter tout ce qu'ils contiennent de choses, quelle musique suave est en eux, quels sons profonds ils rendent. Moi, une Bretagne de mirage me passa devant les yeux, en moins de temps qu'il n'en faut pour vous le compter. Les talus, avec leurs herbes foisonnantes, leurs fougères, leurs grands ajoncs étincelants de toiles d'araignées, leurs touffes de fleurettes bleues, blanches, roses, épanouies à la lumière d'avril, le murmure des cressonnières dans les douves, puis les matins d'argent neuf, les jolis ciels pommelés, les toits de chaume blond où la rhubarbe et les mousses sont en fleurs, et les courtis qui sentent si bon, et les cris d'enfants, et les chants d'oiseaux, et les fontaines sombres sous les sureaux, et le resplendissement du soleil sur la mer. Je vis Plouguiel, ma paroisse, ma maison de Kersuliette, où nous habitions alors, adossée à celle du vieux barde aveugle Yann Arguen. Ma femme, s'apprêtant pour la messe, devant le fragment de miroir fixé dans l'embrasure de la fenêtre, épinglant sur ses cheveux, lissés en un double bandeau, les grandes ailes retroussées de sa catiole. Je vis encore le sonneur dans la tour, les cloches balançant leurs gueules de bronze. Qu'est-ce que je ne vis pas durant cette seconde exquise? Ce fut si doux, si attendrissant que j'en fermais les yeux. Les autres aussi se taisaient, captivés comme moi par leurs songes. Le capitaine rompit le premier le silence. « Querello, me dit-il, veille à nous faire demain de ta plus belle voix la lecture de l'office de Pâques. » Puis, nous congédiant, il ajouta, « Il y aura repos de 12 heures pour tout le monde. » Quand nous nous fourrâmes dans nos boîtes à Saumur, comme on parle à Islande, l'aiguille de ma montre marchait vers 10 heures.